d'avoir suivi. Je vous souhaite de rester à l'écoute de...
Bienvenue à toutes et à tous sur votre émission hebdomadaire sur VOA Afrique. Une vingtaine de minutes pour passer au crible l'actu du sport de la semaine. Élisée Rompati en direct avec vous et pour m'accompagner, Lawal Dinkosuro comme d'habitude dans ce studio. Bonsoir Lawal.
Élisée, je vous salue. Je salue également les auditeurs de VOA Afrique.
On prend la direction de Columbus dans l'Ohio où se trouve Amédine Si. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
En direct de Casablanca au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, de Cotonou au Bénin, nous avons Albert Ogouredji du service des sports de Radio Bénin. Bonsoir Albert.
Bonsoir Élisée, bonsoir à toutes et bonsoir à tous.
Ce soir, nous allons parler du football de plage. Le Sénégal finit 4e du mondial de beach soccer en Russie. Et puis, on connaît deux des affiches des quarts de finale de l'afro-basket qui se déroule actuellement au Rwanda. Bienvenue sur Sporama. Le football du sable avec le mondial de beach soccer qui s'est tenu en Russie. Après un beau parcours, le Sénégal finit au pied du podium. La marche était décidément trop haute pour les Sénégalais. Éliminés en demi-finale par le Japon, ils n'ont pas pu se relever, concédant une nouvelle défaite en match de classement face à la Suisse. La belle aventure russe se termine donc sur une 4e place pour les joueurs de Ngala Sila. Amédine, oui, les Sénégalais peuvent se vanter d'avoir réussi ce mondial, vu que l'objectif était les demi-finales.
Tout à fait, Élisée, l'aventure s'est arrêtée pour les Lions du Sénégal en demi-finale, car les Poulets de Garazila ont vu le rêve de disputer pour la première fois de l'histoire la finale s'envoler après la défaite concédée face au Japon sur le score de 5-2. Le Sénégal ne s'est pas d'ailleurs remis de cette élimination car les Lions se sont encore inclinés hier dimanche en match de classement communément appelé petite finale sur le score de 9-7 face à la Suisse. Avec cette défaite, la sélection sénégalaise qui avait réussi l'exploit d'éliminer le Brésil, 14 fois champion du monde, termine à la 4e place. Mais c'est réalisé que malgré la déception, Alassane Ndiaye et ses partenaires ont toutefois rempli l'objectif qu'ils s'étaient fixé en atteignant pour la première fois de l'histoire la demi-finale de cette compétition après 8 échecs en demi-finale. Donc il y a eu beaucoup de regrets, mais le Sénégal a fait une très bonne compétition, mais ils ont mal terminé ce mondial Élysée.
Lawal, une déception quand on est si proche du but. Les Lions du Sable peuvent se dire aujourd'hui, on pouvait quand même faire mieux.
Oui, Élysée, les Lions de Sable vont nourrir beaucoup de regrets parce que on aurait pu ne pas aller à cette étape-là, à ce niveau des demi-finales, rester peut-être dans la phase de poule, rentrer à la maison, que de faire rêver les supporters jusqu'à ce niveau et briser leurs rêves comme ça, aussi brutalement, aussi facilement, aussi simplement.
Le Sénégal peut finir à l'une des deux premières places ou tout au moins finir troisième.
Finir troisième. Vous êtes allé jusqu'en demi-finale, vous vous êtes fait battre par le Japon. Après, vous ne vous relevez pas face à la Suisse. Pourquoi être allé en demi-finale? En tout cas, les Sénégalais doivent forcément avoir des regrets, beaucoup de regrets face à cette prestation. C'était un exploit qu'on attendait. L'espoir n'est pas arrivé. Donc, l'exploit a laissé place à la déception. Maintenant, le Sénégal aurait pu mieux faire que cette 4e place au cours de cette compétition.
Gazon à présent. Manchester United a trouvé un accord avec la Juventus de Turin pour le transfert de Cristiano Ronaldo. 12 ans après son départ, le Portugais revient à Manchester où il a évolué pendant 6 saisons en 2003 et 2009, remportant la première de ses 5 Ligues des Champions et le premier de ses 5 Ballons d'Or. Albert, l'aventure continue pour CR7.
Oui, l'aventure continue pour Cristiano Ronaldo, un véritable exemple de longévité et de régularité, parlant de superstar de football à côté, bien sûr, de Lionel Messi, également concerné par ce mercato assez particulier auquel on assiste cette saison en Europe. Messi qui va évoluer sur un autre maillot que celui du Barça, et Cristiano Ronaldo, qui était annoncé à Manchester à City et qui, à la dernière minute, retrouve sa maison de Manchester United, convaincu par Sir Alex et par certains anciens de la maison comme Evra ou encore Rio Ferdinand, sans oublier son compatriote actuel Bruno Fernandes. C'est une très bonne pioche pour Manchester United, qui réalise là aussi un mercato intéressant avec Jordan Sancho devant, avec Raphaël Varane derrière. Et Cristiano Ronaldo, c'est quasiment 25 buts assurés par saison pour Manchester United. Et c'est un vrai plus dans sa carrière. C'est un nouveau défi pour Cristiano Ronaldo, qui va rester encore au très très haut niveau européen malgré ses 36 ans.
Amine, contrairement à Messi, Cristiano pouvait finir dans le club qu'il a révélé.
Et il va falloir peut-être remercier Sir Alex Ferguson, qui a été d'un grand secours pour les Red Devils. Sans son intervention téléphonique, sans sa façon de persuader Cristiano Ronaldo de finir la boucle là où il avait commencé à tutoyer les dieux du football, jamais ce dernier n'aurait pensé atterrir une nouvelle fois à Old Trafford, puisque tout était réglé, arrangé par son agent Jorge Mendes pour signer un contrat avec Manchester City. Finalement, c'est un retour quasiment aux sources pour Cristiano Ronaldo, qui va devoir, lors des prochaines rencontres, montrer qu'il garde la foi, le niveau, et que surtout que son intermède turinois ne lui aura pas fait perdre son punch et sa volonté de vaincre. Quoi qu'il en soit, Cristiano Ronaldo est reparti pour un joli bail, pour une fin d'histoire d'amour avec Manchester United, avec peut-être un happy end au théâtre des rêves.
Lawal, la star portugaise et Manu Wu sont très attendus en Première Ligue, tout comme en Ligue des Champions, logés dans le groupe F en compagnie de Villarreal, d'Atalanta Bergame et de Young Boys de la Suisse.
Oui, Élisée, on doit attendre beaucoup donc de Manchester United, puisque pendant plus de 8 ans, ils n'ont plus gagné ni Ligue des Champions, ni Première Ligue. Et le retour donc de l'enfant prodige, on va le dire comme ça, parce que depuis qu'il est parti de Man U, il n'y a plus rien. La dernière Ligue des Champions gagnée, c'était avec Manchester, avec Cristiano Ronaldo. La dernière Première Ligue, tout autant. Donc son retour va forcément nourrir beaucoup d'espoir du côté des supporters de Manchester United. Il faut rappeler que Manchester a fait un recrutement XXL. Sandro qui est venu, il y a Varane qui est arrivé, et enfin Cristiano Ronaldo qui vient. Et Pogba, avec la luminosité qu'on constate chez lui depuis le début de saison, avec ses passes millimétrées qui permettent à Man U de s'en sortir, il faut espérer que ça va être une saison spéciale pour Manchester United avec la présence de CR7. Et il va se rappeler les exploits qu'il a donc écrit pendant qu'il était à Manchester United.
Voilà, Abedine, de son côté, même si tout semble facile pour le PSG en championnat, il faudra cravacher fort en Europe, et d'abord face à Manchester City.
Oui, Élisée, car le club de la capitale est logé dans le groupe A en compagnie des Anglais de Manchester City, des Allemands de Leipzig et des Belges du FC Bruges, des adversaires que les Parisiens connaissent très bien, hein, car ils ont eu à jouer contre ces adversaires. D'ailleurs, les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et City auront un parfum de revanche, hein, car les poulets de Pep Guardiola avaient éliminé les Parisiens en demi-finale de la saison dernière. Ce sera aussi le cas de Leipzig, un adversaire qui avait joué contre les Paris Saint-Germain en demi-finale de la C1 en 2020 et en phase de groupe de la saison 2020-2021, tout comme la formation belge qui était présente dans le groupe du Paris Saint-Germain. Donc ce sera des retrouvailles de feu entre le Paris Saint-Germain et ses trois adversaires Élysée.
Merci à Medine. D'autres belles affiches en perspective comme Inter de Milan, Real Madrid, Bayern de Munich, FC Barcelone ou encore Chelsea Juventus et Atlético de Madrid Liverpool. La compétition débutera le 14 septembre prochain. Mais en attendant, les sélections africaines vont livrer leur premier match de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022 à partir de ce mercredi. Les différents sélectionneurs ont d'ailleurs procédé à la publication de leur liste. Albert Michel Dussuyer a dévoilé sa liste de 24 joueurs sans surprise, malgré les absences de Fabien Fanol, David Diki et Jérôme Bonou.
Oui, Michel Dupuy est resté une nouvelle fois fidèle à ses principes et à sa philosophie de jeu. Fabien Farnol n'y est pas parce qu'il est sans club et Jérôme Bonou, sûrement victime des choix et peut-être en manque de compétition avec son club de Joliba qui a plus joué depuis plusieurs semaines. Pour le reste, c'est vraiment du classique avec deux retours au poste de gardien de but pour Marcel Dandinou, un retour en défense pour Melvin Doremus, un retour au milieu de terrain pour Ceci d'Almeida qui était blessé lors de la dernière campagne, et puis devant, il a quasiment fait avec ses meilleurs du moment, en attendant bien sûr ces deux matchs à venir face à Madagascar et face à l'équipe de la République démocratique du Congo. Il a aussi fait sûrement ses choix par rapport à ces deux adversaires-là. Il faut repartir sur un nouveau cycle, tout comme Madagascar, tout comme la RD Congo, dans un groupe assez ouvert. Les écureuils ont vraiment leur carte à jouer pour ces deux matchs en cinq jours.
Amédine, Aliou Cissé sera avec 25 joueurs contre le Togo le 1er septembre à Thiès et trois jours plus tard à Brazzaville face au Congo.
Tout à fait, ça c'est Élisée que le technicien sénégalais a opté pour la continuité et la stabilité car le sélectionneur des Lions a reconduit presque les mêmes hommes qui avaient joué les deux derniers matchs du Sénégal contre la Zambie et le Cameroun, mis à part les retours d'Ibrahim Mbaye, de Mamadou Lumiai et de Habib Diallo. Ces trois jours remplacent Youssou Sabali qui est blessé, mais aussi Lamine Gassama et Diaw Balde Keita qui n'ont pas encore de club, mais Aliou Cissé pourra toujours miser sur ses cadres, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Sadio Mané, etc. pour entamer de la plus belle des manières ces éliminatoires du mondial. Mais ça c'est Élisée que pour ce derby ouest-africain entre le Sénégal et le Togo prévu le 1er septembre au stade Ladior de Thiès, les Lions ne pourront pas bénéficier du soutien de leurs supporters car le match se jouera à huis clos puisque la CAF n'a pas du tout autorisé la présence du public. Après cette rencontre, Sadio Mané et ses partenaires s'envoleront pour le Congo pour affronter les Diables Rouges du Congo. Ce sera le 7 septembre au stade Massamba Déba de Brazzaville. Élisée.
Amine Birouk, opposé au Soudan et à la Guinée, le Maroc se présentera avec de nouveaux visages, mais sans Hakim Ziyech, certainement bloqué par Chelsea.
Quelques nouveaux visages, El Malah qui évolue à la Fiorentina, qui vient de Serie B et qui vient de faire ses débuts avec la Viola, de Alakouch qui était à Nîmes, un arrière latéral et qui fait ses grands débuts en Ligue 1 du côté de Metz, il y a également Karouani de Nijmegen, et ce qui est certain c'est que dans cette équipe du Maroc où il y a eu six nouveaux visages, dont ces trois précédemment cités, il y a cette absence de Hakim Ziyech qui laisse, je dirais, planer un doute concernant sa relation avec l'entraîneur Vahid Halilhodžić. Ziyech s'est certes blessé lors de la Supercoupe d'Europe, mais depuis deux semaines, il fait partie régulièrement du groupe de Chelsea. Il avait même joué quelques minutes lors du précédent match, et cette fois-ci, il n'a pas pu jouer contre Liverpool en raison de la situation où, des Blues qui étaient en infériorité numérique. Hakim Ziyech est un joueur fantasque, c'est un joueur caractériel, mais c'est un talent. Est-ce que l'équipe du Maroc peut se permettre le luxe de se priver d'un de ses plus beaux atouts offensifs, sachant que Vahid Halilhodžić tâtonne, qu'il peine à mettre sa patte sur le jeu de l'équipe du Maroc et que visiblement, il va falloir prendre au minimum 4 points sur 6 possibles lors de cette confrontation face au Soudan et surtout lors d'un périlleux déplacement à Conakry face au Sélection nationale de Guinée.
Lawal, la FIFA et la CAF veulent éviter cette mauvaise pratique de certaines fédérations en Europe qui veulent bloquer les joueurs africains.
En quoi faisant? La CAF et la FIFA n'auront qu'à parler. Les joueurs sont dans une situation contractuelle dans leur club. Et aujourd'hui, si un club décide de ne pas libérer un joueur, il y a forcément des raisons. Et rappelez-vous, les certains ont dit pour des pays où la pandémie est beaucoup plus présente, quand les joueurs vont partir, à leur retour, ils vont donc rester en quarantaine pendant 10 jours au moins. Pendant ces 10 jours, vous voulez que les clubs vivent comment? Si, je prends l'exemple du Marocain Hakim Ziyech, s'il quitte Chelsea et qu'il revient, il passe 10 jours de confinement.
Mais Chelsea a joué face à Liverpool sans Ziyech et a pu faire un match nul.
Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça gêne un peu, ça fait un peu mal que
ces Africains ne puissent pas
libérer certains joueurs africains. Ça fait un peu mal, mais la FIFA et la CAF connaissent le phénomène depuis longtemps. Si elles n'ont pas réagi, ce n'est pas aujourd'hui que ça a pris une proportion beaucoup plus grande qu'on va commencer par susurrer des choses. Non, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, l'UEFA a intérêt à faire en sorte que tous puissent se jouer sur une balance équilibrée. Mais si les clubs refusent de le faire, c'est parce qu'ils ont l'habitude de le faire, que ça ne crée aucun problème, personne ne dit rien, et que la FIFA se lève aujourd'hui pour parler, il dit que c'est du médecin après la mort.
Jingle. La balle au panier à présent avec l'Afro Basketball qui a lieu à Kigali au Rwanda après la phase de poule. Place maintenant au match à élimination directe. Et Amine, la Tunisie en patron dans sa poule pendant que l'Égypte se met en difficulté et devra passer par les barrages.
Une Tunisie qui a gardé son ossature du dernier pré-olympique, de la dernière Coupe du Monde, avec quelques éléments comme Salah Mejri, ex-Real Madrid, ex-Dallas Mavericks en NBA, grand défenseur, rebondeur, pivot dont la taille dépasse les 2m15, également Riaza, Makram Barramdan qui font un peu partie de la vieille garde, plus le shooter d'origine américaine Michael Roll. Ça fait une équipe redoutable qui a réussi un carton plein, 3 matchs, 3 victoires, dernière prestation de haut vol contre la République centrafricaine, victoire 68-51. En revanche, ça grince des dents du côté de l'Égypte, défaite une deuxième fois dans son groupe, cette fois-ci par la Guinée, 86-78. L'Égypte qui va devoir repasser par un tour de cadrage pour pouvoir gagner sa place en quart de finale. Et dire que les Égyptiens avaient survolé leur groupe de qualification, qui donnait l'impression d'être un peu plus solide que lors de la dernière édition de l'Afro-Basket. Mais visiblement, l'équipe n'a pas retenu les leçons de la précédente édition qui s'était disputée simultanément, en Tunisie et au Sénégal.
Albert, belle performance de la Côte d'Ivoire qui prend la tête du groupe C après avoir battu 77-68 le Nigeria, pourtant annoncé favori.
Oui, belle prestation collective des Ivoiriens menée par Solo Diabaté, par Stéphane Konaté, surtout le facteur X de ce match face au Nigeria, Zouzoua. La Côte d'Ivoire a fait son match, les Nigériens peuvent s'en prendre à eux-mêmes. Les joueurs de Mike Brown ont beaucoup manqué des paniers faciles, se sont peut-être vite vus trop beaux avec leur statut de champion d'Afrique. Les Ivoiriens ont joué décomplexés, ils se sont imposés, ils ont désormais une partie de tableau plus facile que celle des Nigériens. Les Nigériens qui devront batailler désormais pour espérer conserver le titre de champion d'Afrique. En tout cas, la Côte d'Ivoire a envoyé un signal en dominant en fin de phase de poule le champion d'Afrique en titre.
À Médine, le Sénégal réalise le sans-faute après le premier tour et démontre une véritable force. La suite promet, surtout connaissant l'objectif.
Oui, Élisée, les points de Boniface Ndong ont survolé le groupe D en signant 3 succès en autant de sorties. Gorgui Sidien et ses partenaires ont écrasé l'Ouganda en match d'ouverture sur le score de 93-55. Ils ont ensuite enchaîné en dominant largement le Soudan du Sud par 104-75. D'ailleurs, le Sénégal a été la première équipe à atteindre le cap des 100 points avec ses 3 victoires acquises avec la manière le Sénégal qui balaye tout sur son passage termine à la tête du groupe D et lance un signal très fort à ses adversaires car avec l'absence des joueurs NBA du Nigeria, le Sénégal qui rêve de reconquérir le titre perdu depuis 1997 devient un candidat très sérieux pour le titre Élysée.
Merci Amine. Sur les 16 équipes engagées, 12 vont poursuivre cette compétition et parmi elles, 4 sélections sont directement qualifiées pour les quarts de finale pour avoir fini première de leur groupe. Les autres, les deuxièmes et troisièmes, passeront par des barrages équivalents des huitièmes de finale. Ainsi, le Sénégal premier du groupe D sera opposé à l'Angola en quart. Les Palancas Negras, en soi sacré, ont battu l'Égypte en barrage 70-62. La Côte d'Ivoire, qui n'avait plus atteint ce niveau depuis 2013, affrontera le pays hôte, le Rwanda.
affrontera la Guinée qui jouera les quarts de finale pour la première fois de son histoire. La Tunisie, tenante du titre qui a fini en tête du groupe B, sera opposée au vainqueur du match de barrage entre le Kenya et le Soudan du Sud qui participe pour la première fois à l'Afrobasket. Et puis, le Cap-Vert, premier du groupe A, jouera le dernier quart face au qualifié du barrage Ouganda-Nigeria. Jingle. Du handball pour finir avec le championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe. Et Amine, la 37e édition qui se déroule actuellement à Meknès au Maroc se passe fort pour les favoris, notamment le Wydad Smara et Al Ahly du Caire chez les hommes, ainsi que les Angolaises de Petro Atlético au niveau des dames.
Une hiérarchie pour l'instant respectée puisque les équipes favorites ont déjà remporté leur fait carton plein, gagné leurs matchs les plus importants. Pour citer Wydad Smara, champion du Maroc, seul représentant d'ailleurs du royaume chérifien qui brille par son absence dans la compétition féminine, mais également Ali du Caire qui reste l'épouvantail principal de la compétition, eu égard au talent, l'expérience des joueurs égyptiens, tout récemment quatrième des derniers Jeux Olympiques. Et puis les équipes angolaises sur le plan féminin, notamment Petro Atlético, sont largement au-dessus du lot. Il va falloir maintenant passer aux choses sérieuses à Meknès, c'est-à-dire après la phase du groupe, les rencontres à élimination directe, et c'est là où une hiérarchie africaine sera fixée, et visiblement, on pourrait retrouver les représentants égyptiens qui sont pour le moment largement au-dessus du lot.
À Médine, apprentissage vraiment difficile pour les Sénégalais d'Asfa, dominés après le match de poule.
Oui, Élisée, l'apprentissage est très difficile pour le représentant sénégalais. En effet, l'ASFA a concédé deux défaites en autant de sorties. Les militaires de l'ASFA ont perdu leur deuxième match de Rassa en s'inclinant lourdement devant les Algériens de JSK sur le score de 42-29. Les Sénégalais n'ont pas été du tout à la hauteur, hein, il faut le dire. Les représentants du Sénégal ont été largués dès la première période qu'ils ont perdu du but d'écart 23-13. Après la première période, les Algériens vont creuser l'écart en s'imposant par 13 buts d'écart 42-29. Les militaires qui sont d'ores et déjà éliminés vont affronter l'Interclub lors de la troisième et dernière journée du groupe B. Élisée.
Albert, tout comme Asfa, là-bas était trop haute pour les filles béninoises d'Aspac.
Oui, le niveau était totalement élevé pour les joueuses de l'ASPAC, les championnes du Bénin. Et d'ailleurs, leur entraîneur l'a reconnu. Il a dit que ces joueuses sont parties pour apprendre au regard quand même du calibre des trois adversaires. La DGSP, les Congolaises, troisième de la précédente édition. Vous avez les forces armées police du Cameroun qui restent une machine de handball féminin sur le continent. Et puis, les championnes ivoiriennes d'Habitat Handball Club qui reste un club d'un pays aussi majeur du handball féminin. Donc trois clubs qui ont forcément quelque chose de plus que l'ASPAC. L'ASPAC ne pouvait faire autrement qu'aller apprendre. Et là, ça se voit avec les défaites qui s'enchaînent. Et je pense que l'essentiel pour eux sera d'apprendre et d'acquérir de l'expérience, quitte à faire bonifier cette expérience acquise-là sur la dernière phase du championnat qui va débuter juste après cette Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe.
On revient vers vous, Amine. Finalement, les représentants algériens ont marqué leur présence.
Tout à fait, Lizzy. Il faut savoir raison garder. Visiblement, les représentants du handball algérien, en particulier la JSK, la jeunesse sportive de Kabylie, ont fait acte de présence au tout dernier moment. Leur présence va rehausser le niveau de la compétition, eu égard au niveau du handball algérien. L'Algérie qui a été très longtemps, je dirais, la locomotive principale de la discipline sur le plan masculin, notamment dans les années 80 sous la houlette d'Aziz Deroise. Et on va voir maintenant dans quelle mesure la JSK est capable de tenir le choc face à une équipe du calibre de l'Ali par exemple. Mais ce qui est certain, c'est que si elle affronte l'équipe de Wydad Smara lors d'une confrontation, si le sort en décide ainsi, on risque d'avoir un forfait de cette équipe algérienne. Je serais malheureux pour l'équité et pour le sport.
Merci Amine. Sporama qui s'achève. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.